au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour, je reçois aujourd'hui dans cette émission au fil des pages Isabelle Schmitz, membre de la rédaction du Figaro hors série. Bonjour Isabelle. Figaro hors série est consacré cette fois-ci aux cathédrales des mers. C'est une sorte d'hommage que vous rendez aux marins, à la mer, aux grands gréements, ces monuments de bateaux qui se déplacent et voguent sur l'eau. Nous avons le sentiment que la voile connaît un nouveau souffle, nous en parlons beaucoup ces derniers temps, mais pourquoi les cathédrales des mers, Isabelle Schmitz ?
Bien, nous avons pensé à ce titre parce que les cathédrales évoquent à la fois le côté monumental des grands voiliers. Vous avez parlé de grands gréements, en fait, on parle de grands voiliers ou de vieux gréements, ce qui n'est pas exactement la même chose, puisque les grands voiliers sont les derniers grands bateaux qui restent de la marine marchande, et les vieux gréements sont les anciens bateaux de travail qui pour la plupart servent aujourd'hui à apprendre la navigation, mais ce sont des modèles totalement différents.
Donc il faut faire attention à la nuance entre les deux.
Voilà, il faut faire attention à la nuance entre les deux. Dans ce numéro, il est question des deux, mais donc ce titre de Cathédrale des Mers évoque à la fois le côté monumental et artistique de ces bateaux, qui sont des œuvres d'art à contempler au même titre qu'une cathédrale, et il renferme en eux également toute la valeur humaine qu'ont pu mettre les constructeurs de cathédrales, les bâtisseurs de cathédrales. Cette valeur humaine est trouvable également dans les bateaux, puisqu'on se rend compte, quand on s'y intéresse d'un peu près, que chaque bateau est l'histoire de tout de plusieurs corps de métier et puis l'histoire d'un équipage qui va vivre dessus.
On a le sentiment qu'on redécouvre les bateaux à travers ce numéro. Est-ce qu'il y a une sorte d'engouement, un petit peu un renouveau ces derniers temps des bateaux de la mer ?
Oui, on peut vraiment parler de renouveau et de... oui, vraiment d'engouement et d'intérêt véritablement différent depuis une trentaine d'années à peu près. Il est intéressant de savoir que dans les années 1950, alors qu'en Angleterre, par exemple, s'était développé déjà depuis longtemps, depuis les années 30, des associations maritimes, des clubs de voile et des regroupements de passionnés qui essayaient de sauvegarder tout un patrimoine marin, en France, dans les années 50, les dernières flottilles de bateaux de travail disparaissaient. On voyait des bateaux être échoués, vraiment laissés à l'abandon, envahis d'herbes, de fougères et voués à une décomposition, à une mort lente. Ce qui était particulièrement désespérant pour les marins qui avaient donné toute leur vie à la navigation et désespérant aussi pour tous ceux qui s'étaient passé un savoir centenaire, je dirais peut-être millénaire, je ne sais pas, mais en tout cas un savoir-faire qui disparaissait petit à petit puisque ces bateaux de travail n'étaient plus utilisés, étaient remplacés par des bateaux à moteur, des gros bateaux, des cargos, des choses beaucoup plus fonctionnelles.
Est-ce que les pratiques ont changé aujourd'hui justement par rapport à ça ? Est-ce que les voiliers ont toujours les mêmes objectifs ou est-ce qu'on réutilise les bateaux d'autres manières ?
Alors, je crois qu'on réutilise les bateaux d'une manière différente parce qu'il est certain que les petits bateaux de pêche tels qu'ils existaient au début du siècle, au début du 20e siècle, ne sont sûrement pas aussi fonctionnels que des gros bateaux à moteur et très bien équipés avec toutes les commodités d'aujourd'hui. Donc l'utilisation n'est pas la même. Mais l'engouement dont je vous ai parlé il y a 30 ans est venu d'une prise de conscience que ces bateaux avaient une fonctionnalité et il y a un intérêt au-delà du caractère usuel et économique, peut-être. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'ils sont plus considérés comme un moyen idéal de transmettre une histoire et un patrimoine, et également d'apprendre la voile et la navigation. Il est assez intéressant de voir que, tant pour les vieux gréements que les grands voiliers, dont je parlais tout à l'heure, on en voit donc sur ces embarcations, sur ces différents bateaux, on en voit beaucoup de jeunes, et notamment les jeunes des marines marchandes de différents pays, apprendre leur métier sur des bateaux à voile. Alors que pour la marine marchande, en tout cas, il n'y a plus de bateaux à voile utilisés fréquemment pour le métier. Mais en fait, les formateurs de la marine marchande s'accordent à dire qu'il n'y a pas de meilleur apprentissage que la navigation à voile. Et donc, c'est pour ça, c'est un de nos journalistes, Raphaël Steinville, a été faire un reportage sur le navire polonais, le Dar Modjeje, qui est le navire des cadets polonais, sur lequel ils sont embarqués pendant plusieurs mois et sur lequel ils vont apprendre la navigation au sextant, le relais de quart, enfin, comme dans la navigation traditionnelle, alors que la plupart, en travaillant ensuite dans la marine marchande, seront plutôt enfermés dans leur cabine de pilotage, à tracer des tableaux Excel, qu'à faire toutes ces manœuvres traditionnelles. Mais le capitaine a expliqué donc à ce journaliste combien, selon lui, il était important que les marins se familiarisent avec tout ça, parce que c'était plus qu'une technique, une école de vie et une manière d'appréhender la mer beaucoup plus réaliste et riche d'enseignements.
Donc on réapprend le métier en quelque sorte avec notre époque.
Voilà, exactement.
C'est une invitation au voyage. De quoi est composé ce numéro ? Il y a différentes parties. Vous aviez envie de parler de quoi dans ce numéro ?
On avait un choix très vaste, puisque la mer, évidemment, c'est immense.
Et comment sélectionner,
la mer, le monde des marins, c'est immense. Nous sommes partis, en fait, de l'occasion qui nous était offerte par les fêtes maritimes de cet été, tant à Brest qu'à Rouen. À Rouen, il y a 12 millions de personnes attendues pour voir ces grands voiliers. Et à Brest, également plusieurs millions de navigateurs passionnés qui vont certainement venir avec leur bateau et permettre aux visiteurs de monter à bord, de découvrir différents types de bateaux venus du monde entier. Et donc, on est parti de ce constat que le public français a retrouvé un goût réel pour tous ces bateaux. Et on a voulu, en fait, montrer la richesse de tout ce qu'ils vont voir. Parce que, du point de vue du visiteur qui va dans ces rassemblements, forcément, sa visite n'est pas exhaustive, elle est parcellaire. Il peut monter à bord, mais peut-être avec beaucoup de monde. Et donc, c'est pas évident de se rendre compte, quand un bateau est à quai, de la vie qui s'y joue lorsqu'il est en mer. Ça peut l'intéresser aussi de savoir comment a évolué la navigation. Donc, on a eu un papier plus thématique sur l'art de la navigation et comment il a évolué. Comment était construit un vieux gréement. On a un article de Sophie Humann qui raconte la résurrection, en fait, de l'Hermione, qui est la frégate sur laquelle Lafayette a navigué pour aller en Amérique, et qui, depuis 1997, est en reconstruction, enfin en construction, en nouvelle construction, puisqu'elle a totalement disparu, dans le port de Rochefort, à l'arsenal de Rochefort. Et donc voilà, à côté de papiers plus thématiques, on a voulu évoquer tout d'abord la beauté de ces vieux gréements. Donc la première partie, en fait, c'est une première partie d'images et de photos. On a essayé de faire travailler, de réunir tous les meilleurs photographes de mer, Alexis Commanda, Olivier Puget, Nigel Peart, Philippe Plisson et tant d'autres, qui passent leur vie à naviguer, à prendre des photos et qui ont une œuvre véritablement passionnante. Et puis, on a essayé de constituer un catalogue des plus grands bateaux, des plus grands voiliers.
Voilà, on trouve pratiquement 33 voiliers de légende.
33 voiliers de légende. Alors, évidemment, on en a laissé de côté, malheureusement, parce qu'on ne pouvait pas tout traiter.
Comment vous les avez répertoriés ?
On les a majoritairement sélectionnés sur leur importance et sur leur présence à Brest et à Rouen. Il y en a un, je crois que c'est le CEDOF, qui ne sera malheureusement pas présent à Rouen, mais pour le reste, ils y sont à peu près tous. Et on a essayé, en fait, dans chaque court article, de faire découvrir la spécificité de ce grand voilier, son histoire, est-ce qu'il a été restauré ou pas, quel type d'équipage l'habite, le fait vivre. Et c'est assez amusant de se rendre compte, en fait, qu'en lisant ces 33 notules, on a vraiment l'impression d'être dans 33 univers différents. Et on craignait, a priori, au départ, la redite. Et or, il n'en est rien, je crois.
Alors, il y a beaucoup de rassemblements, vous disiez, cet été. On a le sentiment que les grands rassemblements se multiplient. Est-ce que les Français sont de plus en plus passionnés, ont besoin de liberté ? Qu'est-ce qui se passe ?
Je crois que le public français est de plus en plus intéressé, enfin, en tout cas aujourd'hui, intéressé par tout ce qui s'identifie à des racines identitaires, culturelles. Et je pense que ça n'est pas seulement le côté majestueux et grandiose du spectacle qui l'attire, mais également tout ce qui va avec en termes d'enracinement, de culture, de transmission d'un héritage. Il faut voir aujourd'hui le succès des fêtes de Brest et de Douarnenez. C'est de Douarnenez que ce grand courant est parti au tout début des années 80, avec les premiers rassemblements de gréement, et puis la fondation du journal Le Chasse-Marais, enfin de la revue Le Chasse-Marais, revue qui en fait est devenue également une maison d'édition qui réédite énormément de livres sur la navigation, les marins, l'état d'esprit, les chants de marins, les choses comme ça. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller à Douarnenez, de découvrir cette équipe. Et c'est très impressionnant de se rendre compte en fait qu'une petite équipe au cœur de la Bretagne écrit en fait pour des passionnés de la mer du monde entier et peut transmettre cette passion et même susciter chez des gens qui s'y intéressent comme ça un véritable engagement. Ils ont par exemple lancé un concours pour leurs lecteurs et pour les passionnés, les amoureux de la mer, un concours qui a lieu maintenant tous les 4 ans et qui consistait pour l'un d'entre eux à rebâtir des vieux gréements selon les méthodes traditionnelles, à en remettre à l'eau. Et il y a eu une centaine de vieux gréements rebâtis, dont la fameuse Recouvrance, qui est le bateau le plus célèbre et qui est à Brest aujourd'hui.
Alors, pour finir, vous accordez un chapitre entier à Tabarly, donc le célèbre navigateur qui est malheureusement disparu il y a 10 ans. Et donc vous honorez sa mémoire 10 ans après sa mort. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce chapitre, également de tous les événements en parallèle qui sont consacrés? Il y a un film, il y a des livres, il y a même une exposition.
Oui, Éric Tabarly reste dans la pensée de beaucoup de marins la figure de proue de cette renaissance des vieux gréements et de cet amour des bateaux. En fait, au départ, nous avions un peu hésité sur la manière de traiter cette figure, parce qu'évidemment, c'est un grand marin, mais on ne savait pas s'il fallait le rattacher ou non, quel rôle il avait en fait dans les grands voiliers ou les vieux gréements. Les grands voiliers, on le voit dans le film que Pierre Marcel vient de réaliser sur sa vie, on voit que c'était un de ses rêves de naviguer dans un grand voilier, mais on voit surtout qu'il a passé presque toute sa vie à restaurer le Penduick, le bateau que son père avait acheté en 1938 et que, à l'âge de 20 ans, il va commencer à restaurer méthodiquement en mettant tout son argent de côté pour restaurer ce bateau, le faire revivre et le moderniser, mais sans le défigurer. Ça, je crois que c'est très important et en cela, il est vraiment emblématique d'un certain état d'esprit qui prévaut dans ces rassemblements maritimes, qui est le fait de vouloir allier la modernité des techniques au respect d'une ligne et d'une esthétique traditionnelle. Et il est très frappant de voir dans ce film que Éric Tabarly ne cesse d'inventer, parce que c'est vrai qu'on a son image de marin, de celui qui gagne les courses, mais on voit très bien dans ce très beau film qu'il est sans cesse en train de trouver des nouvelles techniques pour aller plus vite, pour alléger le poids du bateau. Et tout cela simplement en réfléchissant, en se fondant sur des techniques de voile traditionnelles, en les respectant et en les perpétuant. Et je crois qu'il a vraiment formé toute une génération de marins, Kersauzon, etc., Alain Colas. Il est toujours célébré pour cela et il nous semblait important de rendre compte de cet hommage. Alors, on parle évidemment du film de Pierre Marcel qui est sorti en salle le 11 juin. On parle également de l'exposition qui
lui
est consacrée.
Une exposition au Musée national de la Marine du 4 juin au 8 septembre.
Voilà, il y a la sortie du livre de
Tabarly, voilà, de Yann Kefelec à l'archipel,
qui était avec lui lorsqu'il a disparu en mer en 1998, et également du livre de sa fille Marie, qui lui consacre une biographie évidemment très personnelle.
Éric Tabarly, mon père, de Marie Tabarly. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci Isabelle d'être venue nous parler des cathédrales des mers, ces magnifiques gréements qui composent le nouveau numéro du Figaro hors-série. Un Figaro hors-série disponible tout l'été en kiosque et que vous pouvez également acheter sur le site www.lefigaro.fr.